Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. On va peut-être démarrer notre atelier. On laisse peut-être quelques minutes les gens nous rejoindre depuis la salle en bas. Mais j'ai du coup me permis de faire une petite introduction à cette session qu'on a voulu organiser aujourd'hui autour d'un sujet qui nous tient à cœur, les cultures de paix et la coopération internationale. On s'est interrogé sur le rôle que les collectivités locales pouvaient jouer dans la construction de la paix dans les relations internationales. C'est pas une question facile. C'est pas dans l'ADN propre des collectivités locales s'engager dans la résolution des conflits internationaux. Mais il est vrai que de plus en plus, dans nombreux pays dans lesquels les collectivités locales ont engagé une coopération décentralisée, il y a la guerre aujourd'hui. Et donc, Cité Unifrance accompagne donc son réseau également dans ces situations limites et situations de crise. Donc, l'angle qu'on a choisi, du coup, est un peu différent. On a choisi un angle, on y reviendra avec nos intervenants, que je remercie d'être là, qui est celui plutôt de la mémoire, comme outil clé des collectivités locales, déconstruire une culture de paix sous leur propre territoire, mais également avec leurs partenaires avec qui sont en coopération décentralisée notamment. Donc on a aujourd'hui autour de la table Philippe Perriot, maire de Grigny, mais qui préside également le comité français des maires pour la paix, un réseau que Philippe tout présentera un petit peu, mais qui est né il y a longtemps, je crois que c'est l'anniversaire cette année, autour des questions du nucléaire et notamment les bombes à Hiroshima et Nagasaki, et nucléaire qui revient quand même un peu sur le devant de la scène dans les crises internationales. C'est pas vraiment pour en parler, mais c'est quand même quelque chose qu'on avait pensé avoir disparu un peu des radars, de nos préoccupations premières, revient en force. Ensuite, nous aurons Sonia Zdorov de la ville de Lyon. On travaillera autour de la mémoire et surtout comment la ville est vraiment engagée sur ces voies. Nous avons aussi un Guillon, elle aussi Dunkerque, une ville mémoire et aussi à l'origine d'un réseau important autour de la mémoire. Et Clara Hart de la ville de Montpellier, ville également engagée autour de ces questions. Peut-être sous l'angle plutôt aussi de comment on essaie de travailler cette question avec nos partenaires à l'étranger, notamment suite à des crises et des catastrophes, parce que CUF intervient souvent en aide aux villes partenaires une fois qu'elles sont touchées par des catastrophes. Et souvent, nos partenaires nous demandent de travailler autour de ces thèmes pour leurs citoyens. Donc je m'arrête là, je passe tout de suite la parole à Philippe pour une introduction. Merci beaucoup.
Faut attendre la fin. Bonjour à toutes et tous, extrêmement heureux d'être présent à ces rencontres. Très heureux et en même temps, l'exercice qui nous est proposé est un vrai défi collectif, à savoir sortir de ces journées avec toujours l'espoir chevillé au corps et l'idée selon laquelle le multilatéralisme et l'international ont un avenir. Je ne serai pas long, bien évidemment, sur les situations que nous vivons, qui ont été dites, qui vont être décrites, et dont il est important d'ailleurs de se redire les choses. Mais je voudrais commencer pour parler culture de paix, rappeler cette phrase de Tocqueville dans « De la démocratie ». De Tocqueville nous dit que les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Si vous remplacez le mot liberté par paix, vous comprenez en quoi les institutions communales peuvent donner goût, permettre l'usage et donner envie de développer cette fameuse culture de paix. Cette culture de paix, je le rappelle, elle est née, d'abord définie par l'UNESCO dans les années 2000, lors d'une rencontre à Séville. Elle est bien évidemment le fruit d'un travail, de quelque chose qui doit se réinventer, qu'est ce multilatéralisme qui est fortement mis à mal. Parler de culture de paix, c'est le remettre en perspective dans le contexte actuel. On parle de président de Cité Unifrance, Michael Delafosse, notre collègue, parlait de turbulence, de moments difficiles, et tous les adjectifs sont utilisés. Fondamentalement, comment parler de culture de paix lorsque nous sommes dans une contre-réforme nationaliste et réactionnaire? C'est le sujet qui est posé aujourd'hui, très clairement. Là où l'armement atteint des folies budgétaires dans tous les pays, là où le droit international est bafoué plusieurs fois par jour, nous devons, comme la société civile, comme des gouvernements, comme un certain nombre d'institutions, pour autant redoubler d'efforts, je dis bien redoubler d'efforts, pour, auprès de nos concitoyens et concitoyennes, porter une voix singulière, la voix des peuples et la voix de la paix. Culture de paix, je le disais, qui nous invite à résister aujourd'hui et qui nous invite également à repenser. Certainement, ce multilatéralisme né de la Seconde Guerre mondiale, un multilatéralisme qui était sous le sceau de la domination, voire du patriarcat, et nous devons inventer un multilatéralisme de la coopération, un peu plus vertical. Quand je parle de verticalité, je pense bien évidemment à la nécessité de s'appuyer sur cette diplomatie des villes qui devient de plus en plus pressante, qui devient de plus en plus utile dans les affaires de ce monde. Maire pour la paix s'inscrit dans cette mouvance de travail sur un autre multilatéralisme où les collectivités ont leur mot à dire dans les affaires de ce monde. 1 milliard de nos concitoyens sont membres de villes issues de ce réseau mondial qui va commémorer à Hiroshima et Nagasaki le 80e anniversaire de l'ère nouvelle de notre humanité, qu'est l'anthropocène, c'est-à-dire notre capacité à nous autodétruire. Commémoration où les villes, bien évidemment, seront présentes. En France, nous sommes un réseau petit mais costaud, comme dirait une publicité pour un petit bonbon. Là, je fais un peu vieux, là, déjà. Hein? Ouais, tout le monde n'a pas la ref, là. Mais il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont. Là-bas, il n'y a pas beaucoup. Ici, si ça va. Donc, Mayor for Peace, c'est près de 8 000 villes dans le monde, je le disais, 1 milliard de collectivités qui mettent la culture de paix, et je reprends ma phrase de Tocqueville, à portée du peuple, qui irrigue les territoires sur des stratégies, alors qu'elles soient mémorielles, et vous allez en avoir beaucoup d'exemples, mais qui travaillent notamment en France à l'élaboration de plans locaux à la culture de paix. Dans nos communes, on fait des plans sur tout, mais vraiment sur tout, sauf sur la paix. Et donc nous avons, avec notre petit bâton de pèlerin, vocation à aider les collectivités à s'emparer de la culture de paix dans toutes les facettes de la gestion communale. Bien évidemment, les moments de mémoire sont des moments de pédagogie, de transmission de la culture de paix de manière extraordinaire, mais il y en a extrêmement plein d'autres. Le sport, la culture, l'éducation, l'aménagement urbain, peut-être aussi un moment de symbole extrêmement puissant pour apporter toutes ces choses-là. Et donc on s'aperçoit que nos collectivités sont le réceptacle de cette culture de paix. Et donc c'est le travail que nous menons, que nous transmettons les bonnes pratiques, les réseaux et des communes, qu'elles soient d'ailleurs petites ou grandes. Il y a là aussi des expériences dans les villages qui sont absolument incroyables, comme dans nos métropoles et dans nos villes. Et donc voilà, c'est pas un sujet d'échelle de faire de la culture de paix, c'est un sujet de volonté politique. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est perçu comme de la naïveté, comme Si. Bisounours, ça va? Tout le monde a la référence? De bonbons guimauve, de nounours en chocolat. Ben, plus que jamais, en fait, les peuples appellent à la paix et les mobilisations que nous avons vécues, et je terminerai par là, notamment les mobilisations lorsque la guerre s'est déclenchée en Ukraine ou ce qui peut se passer en Palestine, montrent que le peuple a encore une conscience et que nous devons, nous, par le bas, d'en bas, continuer à faire vivre cet espoir des peuples. Donc voilà, moi j'ai terminé pour ma petite partie introductive.
Merci. Merci Philippe. Alors, on va passer la parole à Sonia. Est-ce que tu peux juste mettre son PowerPoint ? Donc la ville des Lions, donc ville et refuge, on va aussi en parler, je crois, Sonia, accueille des personnes qui, voilà, qui sont notamment, il y a un programme d'accueil important, personnes qui arrivent sur le territoire des Lions et qui sont porteurs d'un mémoire et qui veulent en fait transmettre cette mémoire à la ville. Et aussi une ville qui est fortement engagée pour qu'elle, assez visuellement, on se souvient et on affiche en fait cette l'importance de cette mémoire. Donc je te cède la parole.
Merci beaucoup Simonet. Donc nous, pour travailler ce sujet de culture de paix et AICT, c'est vrai qu'on a pris un angle un peu particulier, qui est celui des politiques mémorielles, et de voir un peu comment ces politiques mémorielles, elles participent à l'apaisement des mémoires, mais aussi à l'apaisement de nos territoires, voire de nos relations internationales, transnationales, avec d'autres territoires. Donc, tout d'abord, je commencerai par vous donner quelques exemples d'actions mises en œuvre, des actions qui rappelleront l'impérieuse nécessité de donner de la visibilité à toutes les mémoires. Sans oublier, bien sûr, de mentionner l'engagement des communautés, des diasporas, dont tu parlais, Simonet, bref, des acteurs du territoire à nos côtés pour mettre en œuvre ces politiques mémorielles. Et puis, dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment la ville de Lyon entend surmonter certains obstacles, aborder des sujets qui sont parfois douloureux, sensibles, avec comme objectif, et c'est un vaste programme, de ne créer ni déception ni division. Mais tout d'abord, ces quelques exemples de politiques mémorielles qui ont permis d'apaiser les mémoires et on l'espère d'apaiser notre territoire et in fine de contribuer à l'action internationale de la ville de Lyon. Ça a été rappelé en introduction par Philippe Rio, une politique mémorielle ambitieuse, elle découle nécessairement d'une certaine volonté politique. La ville de Lyon, elle s'inscrit dans cette dynamique et elle s'attache dans une logique d'apaisement à célébrer les mémoires dans leur pluralité, tout en tâchant de rendre visible l'expression de celles dites minoritaires, blessées et absentes de l'espace public. En consacrant cette diversité, nous souhaitons permettre à chacun et chacune de se sentir reconnu dans son histoire, dans sa singularité, dans ses souffrances aussi, ce qui devrait in fine participer à améliorer la cohésion sociale dans sa globalité. Et donc, pour illustrer ce propos, j'ai choisi de vous parler de deux ou trois exemples, peut-être deux, pour ne pas trop monopoliser la parole. Tout d'abord, et ça peut paraître surprenant, la Shoah, parce que la Shoah, c'est une politique mémorielle qui est très investie en France, sur laquelle... Non, en arrière. Merci, juste là. c'est une politique mémorielle qui est très investie en France, y compris à Lyon. Mais nous n'avions pas jusqu'à présent à Lyon de monument, d'espace de mémoire dédié à la Shoah spécifiquement. Alors Lyon, capitale de la résistance, bien évidemment, nous avions des lieux de mémoire dédiés à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le Veilleur de Pierre, pour celles et ceux qui connaissent bien Lyon, c'est une statue qu'on retrouve place Bellecour, qui est un lieu de mémoire qui a été érigé en 1948. Pour commémorer l'assassinat, le fait que 5 résistants lyonnais ont été fusillés à cet endroit par des soldats allemands. Et donc cet événement a servi à l'édification de cette statue. Et par la suite, c'est à cet endroit que la plupart des événements mémoriels liés à la Seconde Guerre mondiale, y compris ceux liés à la Shoah, se tenaient. On a un autre lieu de mémoire, et c'est normal, nous sommes à côté du département de l'Ain, qui est une stèle commémorative en hommage aux enfants d'Izieux, qui se trouve place Carnot, c'est-à-dire à proximité de la gare de Perrache, d'où partaient les convois. Mais concernant la Shoah, comme je vous le disais, rien du tout, juste à ce qu'on commence à esquisser un premier projet. Un premier projet qui s'esquisse à partir de 2010 et qui réellement ne se concrétise qu'en 2019, lorsque les différentes sensibilités politiques, mais pas que, y compris mémorielles, si je puis dire, arrivent à se rassembler autour d'un seul et même projet qui suscite l'adhésion de toutes et tous, conformément aux souhaits qui avaient été exprimés par le maire de l'époque, Gérard Collomb, lui qui voulait faire de ce lieu de mémoire un espace de communion, plutôt que de division, ce qu'on peut toutes et tous comprendre, puisque un objectif aussi important que la mémoire de la Shoah l'exigeait. Et donc à l'arrivée de la nouvelle majorité en 2020, bien évidemment, nous reprenons ce projet, et surtout à partir de 2022, nous allons soutenir, fortement soutenir financièrement l'édification du mémorial, avec un engagement financier global qui s'élève à plus de 260 000 euros. Le mémorial, il a finalement été inauguré, et on peut passer effectivement, le voici, il a finalement été inauguré après toutes ces années pour les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était le 26 janvier 2025. Donc en 2025, enfin, ouf, j'ai envie de dire, la ville de Lyon dispose d'un mémorial commémorant les victimes de la Shoah. Cette œuvre, elle est située place Carnot, je vous le rappelais, à côté de la gare de Perrache. Elle s'intitule « Les rails de la mémoire » et elle est constituée de 1173 mètres de rails qui symbolisent, vous vous en doutez, les 1173 kilomètres séparant Auschwitz de la gare de Perrache. Le lieu de l'installation du mémorial, il est bien évidemment très symbolique. C'est de cette gare que les déportés sont partis vers les camps de la mort, dont un convoi tristement célèbre, le convoi 14166, qui est le seul convoi parti de France sans aucun arrêt, sans aucun stop, qui est parti directement vers Auschwitz-Birkenau. Ce mémorial, il est installé à proximité de la stèle des enfants d'Isieux, dont je vous parlais, et de la borne de Verdun, ce qui fait de la place Carnot un espace de recueillement et de réflexion pour notre ville. Travailler sur ce sujet en 2025, c'était surprenant parce que si j'avais interrogé sans doute des gens dans la rue, on m'aurait dit bien sûr qu'il existe quelque chose. Je ne sais pas où c'est, mais bien sûr que la ville de Lyon a pensé à ériger un mémorial en souvenir des victimes de la Shoah. Parce qu'on travaille beaucoup ce sujet. Et c'était surprenant de le faire en 2025, mais quelque part, c'était aussi une opportunité qui nous a permis, nous, au sein de la majorité, au sein de l'exécutif, de pouvoir travailler sur un sujet concret, de garder un lien et de travailler de manière constructive avec une grande partie de la communauté juive, à la même période où la ville de Lyon s'engageait pour le respect du droit international à Gaza, pour la défense des victimes dans la bande de Gaza, donc une période forcément assez tendue. Mais cet espace de dialogue, cette construction, cette édification du mémorial nous permettait finalement de nous retrouver à un moment donné, d'avoir cet espace de dialogue. Et donc, en introduction, tu nous disais, Philippe, finalement, les politiques mémorielles, elles peuvent être des moments de transmission, de pédagogie, c'est vrai. Elles ont été pour nous aussi cet espace de dialogue dont nous avions besoin pour conserver un dialogue apaisé avec les Lyonnais et les Lyonnaises, quels qu'ils soient. Deuxième exemple que je voulais vous donner, l'Algérie. autre moment de l'histoire, autre période assez douloureuse de l'histoire, notamment pour la France, et qui continue, j'ose le dire, qui continue aujourd'hui encore d'empoisonner quelque peu nos relations avec l'Algérie. Au moment de son arrivée en responsabilité, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a fait le choix d'être le premier maire de Lyon à se rendre aux trois cérémonies nationales commémorant les victimes de la guerre d'Algérie. Donc il a assisté aux commémorations du 19 mars, qui commémore le cessez-le-feu acté par les accords d'Évian. Il s'est rendu aussi aux commémorations du 25 septembre, la journée nationale d'hommage aux harkis, aux marasnis et au personnel des diverses formations supplétives et assimilées. Et enfin, il a assisté à la commémoration du 5 décembre, qui est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette dernière journée, elle est particulièrement importante et intéressante parce qu'elle existe depuis 2003 et c'est vraiment la journée de commémoration de toutes les victimes civiles, englobant ainsi les morts de chaque camp. La participation du maire de Lyon aux trois commémorations, merci d'avoir avancé, j'ai oublié de te le dire, la participation du maire de Lyon aux trois commémorations et donc la reconnaissance de la pluralité des mémoires de la guerre d'Algérie et de ses conséquences ont été saluées par de très nombreuses associations du territoire et par le consulat général d'Algérie à Lyon. C'est un signal politique fort qui a montré notre souhait de reconnaître cette mémoire et que cette reconnaissance ne se faisait pas nécessairement au détriment d'une autre. Assister à ces trois commémorations, ça a également favorisé l'inauguration d'un nouveau lieu de mémoire, et c'est ce qu'on voit sur ces images. Pas besoin de revenir en arrière, c'est là, merci. C'est l'esplanade du 19 mars 1962. Donc vous le savez sans doute, c'est une date qui ne fait pas l'unanimité. Elle symbolise l'arrêt des combats officiels, mais non celui des souffrances. Pour certains, le 19 mars évoque l'abandon, la trahison, la violence. Et pour d'autres, c'est la fin d'un système d'oppression et le début d'une souveraineté retrouvée. La ville de Lyon, à travers son maire, a souhaité affirmer son engagement pour une mémoire partagée et lucide qui reconnaît tout à la fois le sacrifice des appelés du contingent, envoyés sans vraiment l'avoir choisi et traumatisés par la guerre, l'engagement des harkis, souvent abandonnés à la violence après l'indépendance, la souffrance des pieds noirs contraints à l'exil, les luttes des militants indépendantistes algériens, et enfin, last but not least, la mémoire des victimes civiles des deux côtés. Donc le 19 mars n'est pas vraiment la célébration d'une victoire, mais c'est un moment charnière de l'histoire dans toute sa complexité, et avec cette esplanade, cette mémoire n'est aujourd'hui plus marginalisée dans l'espace public lyonnais. Pour les mêmes raisons, en octobre prochain, une plaque commémorative en mémoire des victimes du 17 octobre 1961 devrait être dévoilée en partenariat avec des associations du territoire, des associations notamment algériennes et franco-algériennes de Lyon, qui en font la demande depuis de nombreuses années. Alors évidemment, vous le savez, cet événement il s'est déroulé à Paris, mais il a eu un écho national et il fait l'objet d'une mobilisation croissante de la société civile pour sa reconnaissance dans l'espace public depuis une quinzaine d'années. Le courage politique dont parlait Philippe en introduction, je pense qu'il s'est également incarné au moment où le maire de Lyon a fait le choix de rééquilibrer nos prises de parole, nos discours dans les commémorations officielles. Et c'est ce qu'a fait le maire de Lyon le 8 mai dernier. Le 8 mai dernier, nous avions donc une prise de parole officielle à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. C'est un jour qui reconnaît la victoire éclatante de la France, jour de liesse pour les Français. Mais en Algérie, le même jour, le 8 mai 1945, des manifestations pour demander l'indépendance et organiser à Sétif, évidemment, qui est notre ville partenaire, notre ville jumelle en Algérie. Manifestations qui ont aussi lieu à Guelma et Herata. Ces manifestations, elles ont été réprimées par l'administration coloniale française avec une violence inouïe. Et le bilan qui a longtemps été tu, vous vous en doutez, est aujourd'hui estimé à plusieurs milliers de morts parmi les civils algériens. Le 8 mai dernier, en étant le premier maire de Lyon à prendre comme prétexte la victoire des alliés sur le nazisme pour rendre hommage aux victimes de Sétif, de Guelma et de Herata, il a su tendre une main aux Algériens, aux Algériennes, mais aussi aux Français d'origine algérienne de notre territoire, en reconnaissant leurs souffrances et celles de leurs parents. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des relations apaisées, à la fois avec le consulat général, avec notre partenaire, et de pouvoir préparer une mission en Algérie sans avoir trop d'inquiétudes sur l'obtention de visa, par exemple. On vous avait un peu promis un sujet sur le Rwanda, mais je passe, si tu me le permets. Je ne sais pas, ensuite... Oui, je ne sais pas si j'ai encore... Enfin, si j'ai le temps, ça va. Mais le Rwanda, c'était juste aussi pour insister davantage sur notre volonté de ne pas invisibiliser une mémoire, de ne pas travailler sur un sujet en particulier. Donc nous avons également fait le choix de dédier un lieu au génocide perpétré contre les Tutsis. Donc vous le savez, depuis 2019, le 7 avril, c'est être reconnu officiellement comme étant la journée nationale de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. À Lyon, des commémorations étaient organisées de manière plutôt discrète depuis 2014 par une association de rescapés qui s'appelle Ibuka Rhône-Alpes, organisée dans l'espace public, mais sans réelle visibilité et surtout sans représentation institutionnelle. Avec cette même volonté d'ancrer les mémoires dans l'espace public, la ville de Lyon a décidé en 2021 de désormais co-organiser chaque année la cérémonie avec l'association Ibuka. Et nous avons inauguré l'année dernière une stèle commémorative et un jardin en mémoire des victimes en présence de l'ambassadeur du Rwanda en France. Au-delà des lieux de mémoire, je pense qu'on arrive aussi à faire vivre la mémoire des victimes et donc ces politiques mémorielles à travers l'organisation ou l'accueil d'événements à l'hôtel de ville. Par exemple, toujours avec Ibuka, nous avons accueilli une conférence, enfin même plusieurs conférences, puisqu'il y en a eu au moins deux. Une en présence de Vincent Duclair et une autre avec Stéphane Audouin-Rouzeau, qui sont des historiens qui ont travaillé sur le sujet. Ce qui nous permet de rappeler l'importance de la pédagogie historique et de favoriser la vigilance face aux récits révisionnistes. Et puis en décembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, on organise depuis 2021 maintenant une journée dédiée aux droits humains en prenant à chaque fois une thématique en particulier, ce qui nous permet voilà, de sensibiliser les Lyonnais, les Lyonnaises. On a travaillé sur l'état de droit, on a travaillé sur la liberté d'opinion, d'expression, la liberté de la presse, on a travaillé sur le droit à l'environnement. Et l'année dernière, c'était sur la justice pénale internationale. Et à cette occasion, on a donné la parole à une rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ce qui a été un moment fort qui a permis aux personnes dans l'assistance sans doute de faire communion avec cette personne qui est lyonnaise aujourd'hui, qui vit à Lyon, donc qui est l'une des nôtres, si je puis dire, et de partager pendant un instant ses souffrances et son passé. Et donc la dernière partie, voilà la partie 2, les limites un petit peu de l'exercice et comment on essaie de surmonter certains obstacles. Les enjeux mémoriels, vous vous en doutez, si vous travaillez un petit peu sur le sujet ou même si vous lisez l'actualité tout simplement, c'est un sujet qui peut être très complexe et très sensible. Et c'est parfois difficile, à travers les politiques mémorielles, de travailler à l'apaisement des mémoires ou à l'apaisement du territoire. Donc afin d'éviter des écueils ou même pour ne pas prendre de décisions qui ne seraient pas éclairées, la ville de Lyon elle a fait le souhait d'ancrer sa politique mémorielle dans une approche qu'elle veut scientifique, apaisée, inclusive et démocratique. Et donc nous avons créé un comité histoire et mémoire dans la ville qui a été inauguré le 10 juin dernier. Ce comité doit permettre de favoriser la concertation, de garantir la qualité historique des décisions et promouvoir un dialogue continu entre institutions, chercheurs et société civile. Donc il se compose à la fois de représentants d'institutions publiques, comme la Bibliothèque municipale de Lyon, les archives municipales, la DRAC, le rectorat de l'Académie de Lyon, le Centre d'histoire et de la résistance et de la déportation de Lyon, d'universitaires, d'experts dans le champ mémoriel. Au total, on retrouve 48 membres dans cette instance qui est bien évidemment paritaire. Et ce comité histoire et mémoire dans la ville, il a pour principale mission donc d'apporter une expertise scientifique historique sur les questions liées aux mémoires, de produire des avis et recommandations en réponse à des saisines de la municipalité où il peut s'auto-saisir, notamment en cas de controverses mémorielles, si je puis dire. Il a également pour mission d'accompagner les débats publics sur les mémoires en proposant des cadres d'analyse et des outils de médiation. Il doit participer à des actions de sensibilisation du grand public et il doit éclairer les décisions municipales relatives aux monuments et aux changements de nom des rues, de bâtiments ou d'équipements. Là, on rentre vraiment dans le dur. On rentre dans le dur puisque à Lyon, il existe plusieurs lieux qui portent à controverse, la rue Bugeaud notamment, dans le 6e arrondissement de Lyon. Plusieurs collectifs et associations de notre territoire demandent à ce qu'elle soit débaptisée, dénonçant les exactions commises par le maréchal Bugeaud lors de la colonisation de l'Algérie. Ce sera d'ailleurs l'un des premiers dossiers sur lequel se penchera ce comité afin de répondre au mieux aux questionnements, et ces questionnements qui sont légitimes et qui méritent de prendre le temps et la hauteur nécessaire à la réflexion. Et puis en parcourant le budget participatif de la ville de Lyon, puisque la ville de Lyon a rejoint cette grande aventure qu'est le budget participatif depuis 2022, j'ai également spoté, identifié un autre sujet qui pourrait porter à controverse. Donc, le budget participatif de la ville de Lyon, il est assez conséquent. On a eu deux grands volets, deux grands appels à projets. Un premier en 2022 au moment de son lancement pour un budget dédié donc aux Lyonnais et aux Lyonnaises de 12 500 000 euros. Et là, on est dans la deuxième phase du budget participatif avec à nouveau 12 millions 5 consacrés à ce sujet. Et parmi toutes les idées réceptionnées, il y a une association dans notre territoire, un collectif pour être exact, qui s'appelle Africa 50, qui a demandé la pose d'une plaque commémorative au parc de la Tête d'Or, qui est donc le plus grand parc de la ville de Lyon, si vous connaissez peu la ville. En souvenir de la première exposition coloniale française qui s'est tenue en partie à Lyon en 1894 et qui incluait des os humains, des os exposant des hommes, des femmes et des enfants issus des colonies françaises. Donc l'association sollicite la création d'un parcours mémoriel qui rappellerait et recontextualiserait cette histoire et donnerait de la visibilité à cette mémoire qui est pour l'instant complètement absente de l'espace public. Donc, comme vous le voyez, on est sur des sujets, comme je le disais, complexes, sensibles, qui peuvent avoir des répercussions politiques négatives, mais également extrêmement positives, il faut le rappeler. Il faut également rappeler qu'aborder ces sujets, à notre avis, mais bon, ce n'est que l'avis de la majorité à Lyon, hein, aborder ces sujets et le faire en responsabilité, c'est un impératif moral. Une impérieuse nécessité à la fois de rappeler et de visibiliser toutes les mémoires dans leur diversité et leur singularité, d'essayer d'unir plutôt que diviser, même si ce n'est pas toujours évident, non pas par esprit de revanche, par exemple, mais vraiment pour regarder cette histoire qui nous est commune avec lucidité et tenter voilà, d'avancer ensemble et de continuer à faire nation, pour reprendre l'expression consacrée. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Sonia. Évidemment, j'aurais beaucoup de questions. J'imagine vous aussi. On les garde pour la fin. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment intéressant et j'aimerais après te poser des questions autour, surtout du comité historique, comment il fonctionne, etc. Si c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs, et surtout, je vois un intérêt particulier à creuser le sujet. Mais avant, je propose à Océan de revenir un peu sur l'initiative de la ville de Dunkerque et les villes mémoire. Nous raconter un petit peu Dunkerque, comment on se positionne là-dessus. Merci.
Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de représenter Dunkerque. Si je vous demande où est Dunkerque, je pense que vous allez tous me dire au nord. C'est bien au nord. Mais pour l'Europe du Nord-Ouest, en fait, c'est un verrou. C'est assez central pour accéder à l'Angleterre, à la Belgique, aux Pays-Bas. C'est pour ça que Dunkerque s'est souvent retrouvé au cœur de conflits. Le dernier en date, c'est la Seconde Guerre mondiale, où Dunkerque a été détruite à plus de 80% et libérée seulement en mai 1945 parce que Hitler ne voulait pas perdre cet accès précieux à l'Angleterre. Cette année, donc, nous fêtions les 80 ans de la libération et les 85 ans de l'opération Dynamo avec le slogan « Quand la mémoire s'efface, l'histoire recommence ». Et la volonté du président, ce n'était pas d'analyser comment on avait fait la guerre. On connaît l'opération Dynamo, il y a même des films sur cette question-là. Mais plutôt comment on en était arrivé là, comment on en était arrivé à une ville détruite à 80%, des habitants qui ont dû fuir, qui sont revenus, qui n'avaient plus de maison, qui ont dû vivre dans des cabanes de bois pendant plusieurs années. Et donc comment on peut, en analysant ces mécanismes, éviter de les reproduire, sachant qu'on est déjà sur certains schémas qui se répètent. La spécificité peut-être de Dunkerque, c'est de toujours, dans ces questions de mémoire, impliquer les jeunes. On vise tous les citoyens, mais on essaye de vraiment se tourner surtout vers les jeunes. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on est dans une direction jeunesse et relations internationales. On est toujours en lien avec nos collègues pour tous nos projets. L'idée, c'est toujours que les jeunes puissent découvrir autre chose et surtout se questionner sur ces questions de l'autre, de mieux les comprendre, de pareil, de la diversité des mémoires pour éviter de rester voilà, enfermé dans des idées qui se répandent en plus nationalistes, extrémistes. Notre principal outil, c'est ce qu'on appelle donc le réseau des villes mémoire. C'est un réseau créé en 2016 par M. Vergritte, donc le président de la communauté urbaine de Dunkerque et le maire. C'est un réseau, alors on est beaucoup, beaucoup moins gros que Maire pour la paix, on est à peu près 17. Donc ce sont des villes qui ont été détruites par un conflit du XXe siècle, donc par exemple bon, Dunkerque, Oradour-sur-Glane, Ypres, Coventry, et aussi donc Hiroshima au Japon. C'est pour ne citer que, mais on est, voilà, on y a Arras aussi, on est à la fois national et international. C'est donc ces villes qui ont connu les horreurs de la guerre avec l'idée qu'elles ont une responsabilité accrue, peut-être par rapport à d'autres villes, parce qu'elles peuvent prouver qu'on a essayé les extrémistes, qu'on a essayé la guerre, récupérer des territoires, et que finalement ça finit toujours mal pour les populations, que c'est extrêmement dangereux et que promouvoir la paix est essentiel. Ces actions, donc de ce, on est 17 villes, et concrètement, on va organiser très souvent entre nous des mobilités jeunesse qui permettent de nourrir différents objectifs. Donc les jeunes déjà vont acquérir des compétences de mobilité, mais surtout vont voilà, bénéficier donc d'une ouverture d'esprit, de rencontre avec l'autre, de mieux comprendre l'autre, le voisin européen, qui parfois est en guerre. On a déjà eu des échanges en plus avec des jeunes de Boutcha, et on essaye toujours de développer un programme qui est en lien avec la mémoire locale, leur montrer que l'histoire locale en fait fait partie de la grande histoire, et que voilà, Dunkerque a une histoire bien particulière qui en fait s'inscrit dans la mouvance beaucoup plus large qu'est la Seconde Guerre mondiale, et surtout dans tous les schémas qui ont mené à ces catastrophes. Pour ne citer qu'un échange de jeunes, mais on en fait plusieurs par an. Donc les jeunes à l'assaut de la paix, donc c'est un échange qu'on a mené l'année dernière avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui ont permis à 10 jeunes de Dunkerque, Krefeld en Allemagne, qui est notre ville jumelée, Boutcha en Ukraine, qui a rejoint le réseau avec un statut particulier parce que c'est un conflit encore actuel, et Oradour-sur-Glane, qui l'ont permis donc de faire 3 échanges dans 3 villes, pas Boutcha évidemment, mais ils sont venus nous rendre visite, pour qu'on discute ensemble justement de ces questions de mémoire, de réconciliation, de montrer aussi sensibiliser les jeunes français et allemands sur le fait que la guerre, elle n'est pas si loin géographiquement et en fait même dans les réalités actuelles du monde, et qu'il est toujours temps d'agir, mais qu'il faut le faire, qu'il faut réagir maintenant. Ce programme s'est terminé sur la commémoration des 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane, où les jeunes ont pu remettre officiellement au maire d'Oradour une capsule temporelle avec tout ce qu'ils avaient pu acquérir de leur programme d'échange. Donc il y avait des journaux, un manifeste pour la paix, des lettres en ukrainien, en allemand, en français, avec l'espoir que quand elle sera ouverte aux 100 ans des commémorations d'Oradour-sur-Glane, la paix soit revenue en Europe et dans le monde. Voilà, c'est un grand espoir, mais voilà. Une deuxième action de notre réseau, c'est un peu plus nouveau et c'est venu avec l'entrée justement de Boutcha dans le réseau, c'est les actions de solidarité qu'on faisait peut-être moins avant, en tout cas, sur ces questions de paix. Mais donc, on a eu l'occasion d'accueillir plusieurs fois des jeunes ukrainiens en séjour de répit. Mais il y a beaucoup de villes aussi qui ont fait ça. C'était une forte mobilisation. On a aussi également envoyé des générateurs électriques à Boutcha pendant l'hiver et quand voilà, ils sont soumis aux attaques russes. Donc voilà, c'est des nouvelles actions qu'on développe. Le réseau, il évolue. On reste centré sur la jeunesse, mais évidemment on fait tout ce qu'on peut dans le cadre de notre réseau pour être solidaires entre nous. Notre ville de Pologne, Gdansk, aussi est très active sur ces questions-là, et on s'en inspire, on partage nos expériences tous ensemble, notamment lors de colloques. C'est peut-être notre troisième point d'action. Donc c'est des temps d'échange privilégiés qu'on organise tous les ans dans une ville différente. Donc il y en a depuis 2016, avec évidemment une coupure pendant le Covid. Ces temps d'échange permettent aux élus, aux techniciens d'échanger sur leurs bonnes pratiques, leurs défis. Et surtout, ces temps d'échange sont toujours, toujours, toujours ouverts aux jeunes du territoire qui accueillent. Et donc, on échange avec eux, on leur propose de s'investir. Ils nous posent leurs questions, ils nous parlent aussi de leurs défis, de leurs points de vue. Cette année, par exemple, ce qui est beaucoup ressorti à Dunkerque, donc les jeunes nous expliquent que c'est pas qu'ils ont oublié, c'est pas que 80 ans, c'est la fin de la mémoire. C'est que ils sont beaucoup plus soumis aux manipulations. Ils reconnaissent parfois eux-mêmes que sur les réseaux, c'est vite facile d'avoir des fausses images, des faux messages, d'y croire et ensuite voilà, d'être un peu dans un engrenage de manipulation et de révisionnisme qui est en plus très répandu. Donc l'idée, voilà, cette année, ça va être de créer pour nous, juste